petit coup d'oiseau encore, là, non. Très bien. Bon, ben, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à cette présentation, qui est quasiment complète et qui permet d'avoir une idée globale de ce projet. Donc maintenant, vous êtes à même de poser des questions, d'intervenir, sachant que dans un premier temps, bien sûr, c'est le conseil municipal qui commence le débat. Intervention. Pardon. On va commencer. Alors, Monsieur Sajot d'abord.
Oui.
Monsieur, c'est vous, Monsieur Mastrojani, ensuite.
Oui, juste une question. Bon, d'abord, je pense que le film qu'on a vu, le second, était particulièrement clair sur les circulations et la composition urbanistique. Une question, en fait, très basique et qui est peut-être une évidence, mais on parle d'un projet qui sera délivré en mars 2013, donc on est quand même assez loin de l'échéance. Quel est aujourd'hui l'engagement à la fois contractuel et de la part d'Eiffage de vraiment déménager et venir dans ce lieu, sachant que la vie des entreprises peut amener des choses absolument inattendues. Donc quel est aujourd'hui l'aspect engagement de leur part et le fait que la direction générale ou l'actionnaire ou la boîte pourrait être vendue entre-temps ait décidé de finalement changer totalement le plan et interrompre le projet qui est quand même bâti principalement sur eux, avec en plus bien sûr la RATP.
Bon, Eiffage est là et je demanderai qu'il complète ma réponse. Premier point, c'est que le jour où nous avons choisi Eiffage, c'était dans des conditions très précises. Et si l'opération a été choisie et attribuée à Eiffage, c'est parce que Eiffage en a fait son opération aussi, en amenant le siège social d'Eiffage Travaux Publics. Si nous nous rappelons des autres projets, les autres projets demandaient à la ville de mettre la main au portefeuille pour réaliser le projet. Pourquoi ? Parce que eux, ils construisaient des bureaux, mais ils les commercialisaient. Ce qui n'est pas du tout la même approche, puisque quand vous réalisez des bureaux pour votre propre compte, vous avez au niveau de l'équilibre financier une autre approche que celle qui consiste à faire du bureau et à le vendre, à les vendre, soit à les louer. Deuxième point, c'est qu'Eiffage a pris un engagement le jour où nous avons choisi, c'est d'avancer dans les études, de prendre des risques au plan financier et d'aller jusqu'au dépôt de permis de construire sans avoir en quoi que ce soit la certitude que le plan d'occupation des sols soit adapté au projet qu'ils vont nous présenter dans le cadre des permis de construire. Donc ça, c'est un risque qui est pris par une société et qui démontre son intérêt puisqu'elle n'a pas hésité à le prendre. Le troisième point, c'est que Eiffage Travaux Publics a prévu de se déplacer et a d'ores et déjà pris, je préfère que M. Piazza réponde à ma place parce que je ne connais pas le détail au niveau d'Eiffage, mais ils ont déjà pris, concernant le siège social d'Eiffage Travaux Publics à Neuilly-Plaisance, un certain nombre de dispositions dans le sens de se déménager. Alors, avant de passer la parole à M. Piazza, je tiens à dire que pour ceux qui ont participé à la séance de vœux de samedi, la séance de vœux au Nogenté, ont pu entendre M. Roverato, le PDG de la société Eiffage, qui est venu spontanément à cette réunion pour nous confirmer son intérêt pour une telle opération. Alors, Monsieur Piazza, si vous voulez ajouter un mot, s'il vous plaît, venez, je vous en prie. Oui, vous présentez, monsieur.
Je suis Philippe Plaza, le directeur général d'Eiffage Immobilier Île-de-France, donc porteur du projet d'Eiffage sur Nogent-sur-Marne. Bon, deux mots tout simplement. Eiffage Travaux Publics a pris la décision de venir implanter son siège social sur ce projet à Nogent-sur-Marne parce qu'elle en a besoin. Aujourd'hui, nous sommes dans des bureaux depuis plusieurs années à Neuilly-Plaisance, mais aussi installé dans d'autres locaux un peu plus loin. L'idée, c'est de regrouper différentes activités de bureau dans un même endroit et donc sur une surface que nous n'avons pas aujourd'hui. Qui plus est, FH Travaux Publics est en crédit bail à Neuilly-Plaisance, dont celui-ci se termine dans les mois qui viennent. Et donc, c'était l'occasion de regrouper nos bureaux à cet endroit-là. Donc, c'est un besoin, d'utilisateurs qui est important en ce jour, et qui rend dans le cadre d'une politique générale du groupe EFAJ de modernisation de ses implantations de bureaux, puisqu'on n'a tout dit sur le projet, mais tous ces immeubles sont prévus, bien entendu, dans le cadre d'immeubles haute qualité environnementale, de bâtiments en basse consommation d'énergie, en planning avec le Grenelle de l'environnement, et donc nous avons aussi le souci de moderniser nos implantations tertiaires en France entière, enfin partout où nous sommes installés, et donc c'est aussi l'occasion de démontrer notre savoir-faire en matière environnementale. Deuxièmement aussi, 2013, c'est demain pour nous. On a l'habitude des projets à long terme, et même si ça paraît dans 2-3 ans, pour nous c'est demain, et les décisions se prennent aujourd'hui, et tous ces investissements sont programmés longtemps à l'avance, et nous avons besoin de prendre rapidement, au contraire, des décisions importantes sur ces thèmes.
Alors pour ajouter quand même à la réponse, je vous ai dit tout à l'heure que nous aurions un rendez-vous le 8 février au conseil municipal pour valider la convention tripartite qui mettra noir sur blanc les engagements de la RATP, des FH Travaux Publics et de la ville. Droits et devoirs des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, le processus s'est enclenché sur le choix d'un partenaire qui a pris des risques, qui s'est lancé dans cette étude, qui confirme son intérêt pour le projet, mais tout cela sera acté et présenté devant le conseil municipal le 8 février. Y a-t-il d'autres ? Monsieur Mastrojani avait demandé la parole.
Oui. Écoutez, la présentation qui nous est faite sur papier là, de ce projet ne comporte un seul chiffre financier. Il s'agit de montants auxquels on estime les travaux publics d'aménagement d'intérêt général, hein, c'est-à-dire la préparation des avenues adjacentes, etc. Alors je voudrais savoir, ce budget est quand même estimé à 5 millions d'euros. Il est à la charge de qui ? Je vais faire le commentaire tout de suite. J'aurais aimé que vous...
Non, mais je veux bien répondre tout de suite. Oui, je ne savais pas où vous souhaitez...
Non, parce que je me rappelle très bien, c'est pas très loin après tout, ça date de l'année dernière, on a suivi quand même les premières approches de ce projet, attentivement, et je me rappelle que votre antienne à l'époque, pour vendre, entre guillemets, ce projet aux Nogentais et à vos élus, c'était quelque chose qui revient assez souvent comme argument dans votre bouche, ça ne coûtera pas un centime d'euro aux Nogentais. Et alors, cerise sur le gâteau, on nous avait annoncé en plus la création gracieuse, bien évidemment, d'un équipement collectif, en l'occurrence il s'agissait d'une médiathèque, et je veux dire, ça avait une certaine allure. Bon, je ne trouve plus trace dans le très, très joli petit montage qu'on vient de nous montrer, je n'ai pas vu qu'il y ait des traces d'une médiathèque, et ce montant de 5 millions d'euros reste toujours pour moi une question, voilà, que je vous pose.
Bon, parlons tout de suite de la médiathèque et de l'équipement public. C'est vrai que cet équipement était souhaité dans le programme de départ. C'est vrai qu'EFAJ avait répondu dans ce sens, comme les autres d'ailleurs. Mais autre chose, c'est que depuis, nous avons eu tout un processus de concertation. L'équipement en question était situé le long de l'avenue des Marronniers. Et représentait pour les riverains de l'avenue des Marronniers un problème dans la mesure où le bâtiment était quasiment à la hauteur des bâtiments existants de la rue des Marronniers, dans le, disons, entre l'entrée de la gare et la rue Clémenceau. Dans les discussions qui ont eu lieu, nous avons décidé pour écouter et pour aller dans le sens des uns et des autres, nous avons décidé de supprimer cette partie. On aurait pu la créer ailleurs si un certain nombre de problèmes de portage du projet sur le RER n'avaient pas créé des contraintes techniques complémentaires, notamment contraintes techniques complémentaires qui font perdre... vous m'interrompez, M. Plaza, si, mais je crois que c'est, ça nous fait perdre 2,50 mètres de hauteur hein, sur le projet. Cette hauteur-là étant destinée à absorber les vibrations et à consolider... C'est un système à ressort qui permet de consolider le positionnement du bâtiment sur le tube du RER. Et cette partie-là a nécessité des surfaces qui auraient pu être utilisées à un autre équipement public qu'on aurait redistribué. À l'examen d'ailleurs en interne, au niveau de la municipalité, on s'est aperçu aussi que créer une médiathèque à cet endroit-là, même si on a envie de décentraliser un certain nombre d'équipements dans les quartiers, aurait posé des problèmes de gestion parce que on aurait tendance aujourd'hui, pour rationaliser les coûts de fonctionnement, à centraliser les équipements et de services plutôt que de les disperser dans la ville. Donc nous avons abandonné ce projet. Par contre, en matière d'équipement public, ça n'apparaissait pas, bien sûr, dans la présentation qui vous a été faite. Il est prévu, et vous le verrez dans la convention qui sera proposée, il est prévu une crèche entreprise dans laquelle il y aura trois tiers. Il y aura un tiers crèche purement privée, un tiers pour EFAGE et puis un tiers pour la ville. Autrement dit, nous aurons une création d'accueil petite enfance à proximité, d'ailleurs, dans l'allée qui va vers Baltard, à proximité de l'école Victor Hugo. Alors, concernant la question financière posée par M. Mastrojani, vous êtes peut-être aperçu que nous ne sommes pas dans une zone d'activité concertée, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une ZAC. Pourquoi je n'ai pas souhaité de ZAC ? C'est simplement parce que dans notre ville, nous avons un principe, c'est d'avoir un PLD, un dépassement du plafond légal de densité, sur toute la ville, et que la seule rentrée financière que la ville peut obtenir, c'est ce PLD. J'ai pris l'engagement que ce projet ne coûterait pas 1 euro à la ville. Nous maintenons cet engagement et les 5 millions que vous venez de voir font partie du PLD que nous récupérerons dans cette opération. Il faut bien noter une chose, je le dis devant nos partenaires, mais ils en sont conscients, c'est que dans une opération comme celle-là, mes chers collègues, la ville ne possède pas un mètre carré. La ville ne possède pas un mètre carré sur ce site. Le site appartient à la RATP et au syndicat des transports d'Île-de-France. EFAGE a besoin, comme cela vient de vous être expliqué, d'un siège social moderne et repositionné sur une gare RER, parce que nous sommes là typiquement dans le processus Grand Paris, à savoir rapprocher des transports en commun les activités. Or là, nous sommes pile poil sur ce principe-là. Et que, ne possédant pas un seul mètre carré, la ville avait à négocier avec ses partenaires. Or, en finale, dans cette opération, et ce sera dans la convention qui vous sera proposée, parce que l'aspect financier fera partie de la convention que vous aurez à discuter le 8 février, je peux vous dire, M. Mastrojani, que la somme que vous venez de voir fait partie des recettes que la ville va retirer de cette opération, sachant que concernant l'avenue de Joinville et concernant la place Leclerc, qui viendra derrière avec le département qui a pris l'engagement de nous faire des propositions pour l'aménagement de la place Leclerc, eh bien, une partie du financement engagé par le département sur notamment l'avenue de Joinville viendra d'une partie du PLD qui est versée au département dans toutes les opérations. Le département a une part de PLD et le département a accepté le principe de réinvestir ce PLD dans l'aménagement de l'avenue de Joinville. Donc là, on n'a pas parlé de l'avenue de Joinville parce que c'est le département qui va la prendre en charge complètement. Mais par contre, les abords, l'allée Baltard et tout le reste sera financé. Parce que l'objectif, c'était bien cela. C'était requalifier le site et requalifier les abords et les aménagements urbains. Les aménagements urbains et les abords, c'est à la ville de les prendre en charge. Le site, c'est notre partenaire. L'avenue de Joinville, ce sera le Conseil général. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Gilles et monsieur... Alors, monsieur Gilles, je n'avais pas vu monsieur Fontaine qui était sur ma droite. Je lui passe la parole et puis tout de suite après à vous.
Oui, ma question sera brève. Ma question sera brève. Elle concerne effectivement, et je voudrais que la poser à M. Viguier et à son équipe. On voit sur le film effectivement les terrasses recouvertes de bleu, je veux dire sans doute de panneaux solaires. Et donc, est-ce qu'il pourrait nous donner quelques indications sur le bilan énergétique du projet, et essentiellement bien sûr sur les immeubles de bureaux ?
Oui, je réponds bien volontiers à cette question, d'autant que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et sur lequel nous forgeons notre expérience, comme beaucoup d'ailleurs en ce moment, comme vous l'avez remarqué. Donc le bleu indique effectivement que nous avons l'intention de mettre des panneaux photovoltaïques sur des toitures qui seront soit végétalisées, soit utilisées pour produire de l'énergie. Bon. Aujourd'hui, sur les immeubles de bureaux que nous construisons, et nous venons d'en construire un dont on a beaucoup parlé dans la presse, peut-être l'avez-vous remarqué, qui est le siège social de Sodexo à 51 Yvelines, nous atteignons 40 kilowatts par mètre carré par an de consommation. C'est-à-dire que nous sommes dans les très basses consommations énergétiques. Autrement dit, nous savons pratiquement éviter le chauffage. Nous ne savons pas encore éviter l'air conditionné l'été, mais nous savons éviter le chauffage pratiquement et nous descendons très bas dans les consommations. Donc, M. Plaza vous l'a confirmé tout à l'heure, ce projet sera classé dans les bâtiments à basse consommation et il sera particulièrement soigné de ce point de vue. Pour ces matériaux, le chantier, la recyclabilité des matériaux, les consommations énergétiques, les orientations, etc. Voilà. Et dont la première, vous le savez, puisque dans toutes ces préoccupations environnementales, il y a beaucoup de gadgeterie dans un premier temps, c'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est le fond d'affaires, c'est-à-dire la première décision véritablement durable et celle d'avoir positionné l'immeuble sur le toit de la gare, puisque là on est sûr au moins que les circulations des gens qui travaillent tous les jours et qui n'habitent pas à nos gens se feront à partir des transports en commun. Et donc ça c'est des vraies décisions. Voilà.
Monsieur Gilles.
Oui, monsieur le maire, moi j'ai plusieurs types d'observations. La première, déjà en termes de méthode, moi je suis un peu surpris par l'exercice de ce soir. Déjà j'étais surpris en voyant qu'on était convoqué sans aucun document. Donc on a découvert sur notre table une fiche de 2 pages et demie. Bon, bien sûr on a eu des présentations et ces présentations étaient très intéressantes sur le projet architectural et j'espère d'ailleurs qu'on en aura une communication pour pouvoir les regarder plus attentivement. Je suppose qu'ils seront mis en ligne sur le site Nogent-Baltard. Alors, le premier point déjà, c'est pourquoi est-ce que le conseil municipal est aussi mal informé ? Et ça, moi, quelque part, ça me dérange, puisque je reconnais que sur ce projet, il y a eu beaucoup d'efforts faits en termes de concertation, et je trouve que c'est très bien. J'aimerais bien que ça se fasse sur tous les projets. Mais en même temps, je trouve assez incroyable que tous les éléments de la concertation, notamment les différents comptes rendus entendu les ateliers, les positions des différents partenaires qui ont été tout à l'heure listés dans le générique de fin, qu'on n'ait pas eu tous ces éléments en main pour avoir, nous, une vision de synthèse et pouvoir émettre un avis et pouvoir donner un avis un peu circonstancié compte tenu de l'opinion de l'ensemble des Nogentais. L'autre point, c'est, vous nous dites, le 8 février, on devra valider la convention. Comme le faisait remarquer Michel Mastroianni, pour l'instant, on n'a aucun élément chiffré. Donc la question de fond, c'est quand aurons-nous ces éléments chiffrés pour pouvoir les analyser et quand pourrons-nous discuter des marges de manœuvre? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre ou est-ce que le projet est définitivement bouclé et qu'il n'y a plus rien à discuter? Donc, puisque bien sûr, le bilan chiffré donnera les capacités ou non à jouer sur un certain nombre de variables. Bon, ce qui nous était présenté tout à l'heure, bon, moi j'ai des réactions personnelles, mais j'aimerais entendre effectivement les réactions des uns et des autres, puisqu'il y a tous les riverains concernés. Ma première réaction personnelle, c'est de dire que je trouve que c'est quand même assez dense, qu'on a perdu le côté un peu, un peu symbolique de la percée verte vers le Baltard. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait des contraintes architecturales, le coût aussi des fondations spéciales, qui a été obligé, avec des obligations de repositionner des mètres carrés dans d'autres zones. Mais tous ces éléments mériteraient un débat de fond sur chacun de ces points, en ayant en main les opinions de tous ceux qui ont participé à la concertation depuis 2 ans. Donc là, moi, je suis un peu désolé qu'on fasse un exercice un peu formel où on nous présente un projet en phase quasiment finale. On nous dit que le 8 février, on doit valider une convention. Dans quelques instants, on va entendre des opinions, peut-être, j'espère, pas toutes monocordes, mais quand aurons-nous la capacité réellement de donner un avis et d'essayer d'améliorer et de définir un consensus autour de ce projet, puisque je crois que c'est l'intérêt de l'ensemble des gens dans cette salle, l'ensemble des Nogentais, que ce projet soit consensuel. Si on fait un projet qui ne l'est pas, vous connaissez très bien le problème, et ça a d'ailleurs été dit à cours d'un certain nombre de réunions, on aura ensuite un certain nombre de contentieux à gérer, et là, il y aura un autre problème derrière, c'est quel sera le risque juridique et le risque financier pour la ville. Mon sujet, je suppose qu'on aura l'occasion de discuter le 8 février. Donc, tous ces éléments, monsieur le maire, font que, moi je trouve que, en termes de méthode, on ne s'y prend pas très très bien dans cette réunion de ce soir.
Ça m'aurait étonné que vous disiez autre chose que ce que vous venez de dire, monsieur Gilles. Est-ce que vous avez participé au groupe thématique? Non. Est-ce que vous avez essayé de vous informer sur le site Nogent-Baltard sur lequel nous avons mis tous les comptes rendus des groupes thématiques? Manifestement, non. Monsieur Gilles, lorsque vous êtes intervenu, je ne vous ai pas interrompu. Est-ce que vous avez bien compris que ce soir, le débat qui a lieu entre nous après cette présentation, qui est le résultat d'un travail collectif, si vous voudriez, on aurait pu vous présenter là où on était, là où nous étions et là où nous sommes arrivés ce soir. Vous auriez vu l'évolution qui est particulièrement sensible, notamment dans le but de tenir compte d'un certain nombre de réflexions, de remarques, de travaux, de conclusions de ces groupes thématiques. Ce projet a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il est abouti. Parce que, après avoir lancé cette affaire le 14 novembre 2006, le Conseil municipal a validé les opérations par la suite et nous avons travaillé. Il n'était pas question pour nous de représenter au Conseil municipal systématiquement les évolutions des discussions, puisqu'elles ont eu lieu de nombreuses fois, et j'ai même pris la décision de reporter certaines présentations en demandant à ce qu'on ajoute d'autres réunions thématiques. Cet été, d'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé, on devait passer plus tôt devant le Conseil municipal, on a préféré relancer les discussions dans le cadre de ces groupes thématiques. Est-ce qu'il vous a... Je sais pas, j'ai l'impression que ça vous a échappé. Ce soir, cette présentation ne se conclut pas par un vote. On ne vous demande pas de voter ce soir. J'ai souhaité que l'on présente au Conseil municipal l'aboutissement du travail pour que, derrière, on puisse vraiment avancer vers une conclusion. Alors, Peut-être que ça n'était peut-être pas une bonne idée, mais j'ai même demandé que l'on prévoie qu'à la suite du conseil municipal, nous levions la séance au plan administratif pour que les personnes qui assistent à notre débat puissent elles aussi poser des questions, ce qui est une façon pour moi de les associer aux réactions que l'on doit avoir sur ce projet. Moi, je pense à d'autres projets. Je pense à d'autres projets dans d'autres mandatures. Un exemple pour les anciens, est-ce qu'ils ont été informés, contactés, est-ce qu'on leur a demandé leur avis pour la création de la place Leclerc? Est-ce qu'ils l'ont donné leur avis? À l'époque, ça a été fait à la hussarde, avec un permis de construire signé par le préfet, et même le maire de Nogent, à l'époque, avait tout juste le loisir de donner son avis. Aujourd'hui, nous avons commencé en 2006, alors qu'on aurait pu commencer plus tôt d'ailleurs. Et nous sommes à la conclusion de ce soir, à plus de 60 heures de débats et de discussions, des remises en cause complètes de l'organisation de l'espace. Alors ne venez pas me dire qu'il n'y a pas eu de débat. Et le débat, ça n'est pas simplement de vous associer personnellement, puisqu'il y a eu beaucoup de monde qui a traversé les réunions de travail qui ont été organisées. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un temps pour le débat et un temps pour la décision. Nous sommes arrivés au temps d'un projet abouti qui va nécessiter de lancer la phase suivante. Mais dans la phase suivante, il y aura encore un débat, puisque les permis de construire qui seront proposés par Eiffage feront l'objet d'un débat. J'ai même promis, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, au cas où vous ne s'en rappellerez pas, que les permis de construire seront... Il y aura une exposition sur les permis de construire. Et on pourra donner son avis sur les permis. Et libre à tous nos gentés qui ne seraient pas favorable à ce projet, mais sur des arguments quand même un peu structurés, de déposer des recours sur les permis qui seront présentés. Dire qu'un projet est abouti, il est abouti pour passer à la phase suivante. Mais tout le processus n'est pas terminé, puisque nous allons passer ensuite, après le vote de cette convention, à la phase suivante, qui consiste à élaborer les permis de construire et à préparer la concertation destinée à valider ou non ces permis. Donc, moi, ce soir, j'ai l'impression, au contraire, que nous procédons à ce qui doit être fait dans le cadre d'une démocratie locale bien vue. Le conseil municipal n'a pas à se prononcer. La présentation est faite pour qu'il puisse être au courant du travail qui est effectué par les habitants dans le cadre des groupes thématiques. Ensuite, eh bien, il y aura des phases normales de dialogue et de concertation dans le cadre des débats qui font l'objet, enfin qui sont souvent déclenchés à la suite d'un dépôt de permis de construire. D'autres questions ? Monsieur Hirt.
Oui, monsieur le maire, merci. Vous avez rappelé l'importance du dispositif de concertation sans précédent à Nogent et je crois sans équivalent ailleurs, en tout cas dans le département également, pour avoir échangé avec certains de mes collègues. Je ne vais pas revenir sur les volumes horaires et le nombre d'ateliers que vous avez évoqués. Je voudrais remercier un certain nombre de conseillers de quartier qui sont présents ici ce soir et qui s'exprimeront peut-être après sur la base de leurs travaux. Et je voudrais juste, moi, partager avec vous deux remarques dans le prolongement de la délégation qui est la mienne sur la démocratie participative. La démocratie participative, c'est parfois la rencontre, et nous l'avons vu sur ce projet, de professionnels et de spécialistes avec les citoyens que nous sommes. Au premier, il revient la responsabilité d'être accessible, pédagogue, mais au second, et c'est pour moi essentiel, vous et moi, nous tous, élus et citoyens, Il appartient le devoir de rester humble et de ne pas prétendre savoir mieux et être plus compétent que les gens que nous avons en face. L'architecture est un art. Le cabinet Viguier jouit d'une réputation internationale. Ayons ensemble l'ouverture d'esprit nécessaire pour lui faire confiance. Ma deuxième remarque, et j'en terminerai, la démocratie participative, c'est aussi s'appuie sur la capacité de chacun à accepter un compromis qui ne reflète pas uniquement notre propre point de vue. L'évolution du projet montre que la ville a su être actrice de ce processus. D'autres semblent parfois ne pas être sur le même chemin et rester malheureusement figés sur leur seule perception du projet. On peut regretter que ces positions soient parfois le vecteur de calculs politiques extérieurs à la démocratie locale et en tout cas à la vie des conseils de quartier. Mais davantage encore, personnellement, je pourrais regretter que ce positionnement puisse venir freiner le processus collectif d'apprentissage de la démocratie participative que nous avons engagé. Il est maintenant temps pour chacun, après s'être exprimé, d'accepter la mise en œuvre du compromis. Merci.
Madame De Becker, puis ensuite Monsieur Baudry, c'est ça ?
Oui, je voulais donner mon point de vue sur ce projet qui est, à mon sens, indispensable pour nos gens. Le film était vraiment bien. Bon, tous ces films, toutes ces présentations en général, c'est plutôt flatteur, hein, on le sait. C'est que après, c'est pas forcément aussi petits oiseaux que ce qu'on a vu. Néanmoins, c'était très intéressant et ça permettait, je pense, au public et même à ceux des conseillers municipaux qui n'ont pas forcément pu participer à tous les ateliers, d'avoir une bonne appréciation de ce projet. Donc, je répète, c'est un projet indispensable pour nos gens. On va pouvoir enfin habiller cette place Leclerc dont le maire disait à l'instant qu'elle était quand même pas vraiment réussie et ce sur quoi nous sommes tous d'accord. La société FH a choisi de venir à Nogent, on ne peut qu'en être ravis et souhaitons qu'au niveau financier ça se passe le mieux possible et que le maire sera le meilleur négociateur possible pour que nous ayons le plus pour le moins d'argent. En ce qui concerne le consensus, je pense qu'une participation des ateliers et du public sur ce projet qui a été constant depuis plusieurs mois, les gens ont pu s'exprimer, le consensus on ne pourra jamais l'avoir et c'est vrai, comme le disait M. Hirt, attention à ne pas défendre nos intérêts particuliers et ceux qui parfois râlent sont eux-mêmes dans des immeubles très hauts et se plaignent des immeubles très hauts qu'on va construire. Donc c'est toujours très amusant de voir les motivations profondes des personnes. Il ne faut pas être dans un refus du changement, c'est vrai que nous densifions et je regrette, pourtant j'ai été quand même l'apôtre contre la densification avec le poste que j'ai fait voter en 2001, néanmoins nous sommes dans une entrée de ville et il est important de créer du mètre carré de la Chaune et je regrette qu'il n'y ait pas quelques centaines de mètres carrés supplémentaires comme j'avais demandé au début du projet pour des locaux de sociétés de services, hein, qui ne soient pas des commerces mais des sociétés de services dont on a aussi cruellement besoin et on a quand même pas mal de demandes de nos gens. Donc c'est le seul regret que j'ai. Ces locaux étaient prévus dans la partie qui a été supprimée, hein, la pointe vers l'avenue Georges Clémenceau, c'est dommage. Donc voilà, c'est à mon avis un projet indispensable et d'intérêt général et j'espère que on fera fi des petits gènes particuliers pour qu'effectivement il n'y ait pas de recours et qu'on puisse aboutir dans les délais qui ont été exposés ici.
Avant de passer la parole à Christian Baudry, je voudrais dire deux choses suite à votre intervention. La première, il est évident que nous avons d'abord tenu compte, pendant les différents débats qui ont eu lieu, de l'avis d'un certain nombre de riverains. Nous n'avons pas répondu à la totalité de leurs questions et de leurs craintes, mais je pense que nous avons fait un grand chemin vers les préoccupations que les uns et les autres pouvaient avoir. Je suis conscient qu'on n'est jamais parfait dans ce domaine, mais arrivé à un moment, il faut justement basculer, comme vous venez de le dire, de l'intérêt strictement personnel ou de la gêne
supposé à l'intérêt général. Concernant l'intérêt général, nous avons lancé avec Gilles Carrez, le maire du Perreux, deux projets, je dirais, jumeaux. Le premier est parti, c'est la mal tournée, aux abords de la gare de Neuilly-Plaisance, du RER A, qui va développer 13 000 m² de plancher, dont plus de logements que d'activités. Le deuxième, pour notre communauté d'agglomération, c'est celui du pôle RER A, dont on parle actuellement. Il est certain que si nous avons à densifier dans l'avenir, en petite couronne, pour rapprocher l'emploi de l'habitat et pour faciliter les mouvements entre le travail et l'habitat, pour ceux qui n'habiteraient pas nos gens, ce sont bien les gares RER qui devraient être valorisées. Ce qui va être le cas dans le projet du secrétaire d'État chargé du Grand Paris avec son métro à grande vitesse, toutes les gares qui seront retenues seront traitées dans le même principe. Parce que c'est là que l'on peut développer de la richesse, là quand il y a en plus un RER comme le A, qui n'a pas peut-être très bien vieilli et qui ne s'est pas modernisé, mais qui, dans les plans actuellement prévus, devrait être amélioré. Nous avons failli faire la même démarche sur Nogent-le-Perreux, sur la gare de Nogent-le-Perreux. Or, aujourd'hui, on n'a pas pu développer suffisamment de mètres carrés potentiels pour tenter une opération de ce type. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le RER E sera dans les projets de l'État pour les 10 à 15 ans qui viennent l'alternative au RER A ou son complémentaire, puisque le RER E devrait être prolongé jusqu'à la Défense. Donc on aura intérêt, nous, communauté d'agglomération, à se poser la question sur ce que l'on doit faire autour du pôle RER E de Nogent-le-Perreux. Donc nous avons, dans cette communauté d'agglomération, trois chances. La mal tournée, le RER A, le RER E. La densification dont tout le monde parle et que tout le monde craint, et principalement ceux qui en ont bénéficié, y sont opposés. J'en sais quelque chose au travers des permis de construire qui nous sont proposés par le domaine privé pur. Là, nous ne sommes pas intervenants, on est uniquement dans le processus de plan d'occupation des sols existants. Il faut savoir que le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est actuellement en panne, et je pense qu'il le sera largement au-delà des élections régionales, quel que soit le résultat des élections régionales d'ailleurs. Ce schéma directeur prévoit une densification de la petite couronne, beaucoup plus que ce qui est proposé ici, uniquement sur notre pôle RER. Nous ne sommes pas pour une densification, puisque le plan d'occupation des sols tel qu'il existe depuis 2001 a des possibilités à la fois de contrôler une partie de la densification, mais aussi de nous permettre de garder des quartiers résidentiels que nous souhaitons protéger. Je pense à tous nos quartiers résidentiels. Il n'y en a pas un qui manquera à l'appel dans le cadre du PLU pour lequel les travaux commencent actuellement. La zone de protection que l'on va vous reproposer bientôt, puisqu'il faudrait qu'on la présente au Conseil avant Pâques, va aussi nous apporter un outil supplémentaire pour mieux contrôler les projets qui pourraient viser à densifier. Mais sachez-le, le schéma directeur de la région Île-de-France prend en compte la nécessité de construire des logements, ce dont nous manquons en Île-de-France, dans des quantités supérieures à ce qu'on n'a jamais pu réaliser. Et si nous, de notre côté, nous n'apportons pas de l'emploi dans les villes de la petite couronne, nous allons accroître les problèmes de déplacement dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'en fait, on va continuer à aller à la Défense, à aller dans l'Ouest parisien quand on habite à l'Est. Il y a actuellement 1 million de personnes qui passent de l'Est à l'Ouest tous les matins et dans l'autre sens le soir, simplement parce qu'on n'a pas assez travaillé le taux d'emploi des territoires. Donc dans cette opération, nous apportons modestement, je l'avoue, notre contribution à un rééquilibrage emploi-logement et surtout à l'arrivée de valeur ajoutée pour notre collectivité. Certains m'ont dit à un moment, oui, mais ça sert à rien puisque la taxe professionnelle va être supprimée. C'était faire un chemin un peu trop rapide parce que ces personnes-là ne sont pas particulièrement avisées de la politique que l'État peut développer. Oui, la taxe professionnelle a été supprimée pour un certain nombre d'entreprises. C'était une taxe professionnelle vraiment... vraiment assassine vis-à-vis des entreprises parce qu'après avoir taxé l'emploi, on taxait l'investissement. Elle est remplacée par des contributions à la fois sur le foncier, le foncier d'entreprise, mais aussi une contribution sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire en fait la dynamique créée par l'entreprise. Et il faut savoir une chose, c'est que le projet de loi ne le permettait pas, mais il a été modifié en conséquence. Et aujourd'hui, les collectivités comme les communes et les intercommunalités récupéreront un pourcentage non négligeable de la contribution sur la valeur ajoutée. Donc notre projet tient toujours la route au regard des recettes complémentaires qu'il apportera à la communauté d'agglomération qui, elle, à qui on a délégué notre taxe professionnelle. Donc je voulais apporter un certain nombre de précisions. Monsieur Christian Baudry, je vous laisse poser votre question.
Vous avez presque tout dit, monsieur le maire. C'est pas vraiment une question, en fait, que je voulais poser. Mais je voudrais me permettre de rappeler à nos collègues la situation actuelle. Chacun peut voir quand on vient de Joinville l'état déplorable de l'entrée de nos gens. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on peut contester, je dirais, le projet qui est montré. Moi aussi, je pourrais trouver des critiques, je dirais, à faire. Mais je pense que globalement, il constitue quand même une très forte amélioration au plan esthétique au niveau de l'entrée dans notre ville. Et puis, il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est la quantité d'emplois qu'il va pouvoir créer, les commerces que l'on va pouvoir installer, je dirais, dans ce secteur, les appartements également qui vont être réalisés, et ça participera, je dirais, au développement, je dirais, de notre ville. Alors, bien sûr, on peut toujours critiquer, je ne reviendrai pas sur les problèmes de communication, parce que je trouve que c'était un débat, je dirais, un peu sévère, mais d'où on est parti, où on est arrivé, je dirais, avec quasiment, comme le rappelait monsieur le maire tout à l'heure, aucun mètre carré, je dirais, dont on disposait, et réussir le montage technique, si tant est qu'on puisse aller, je dirais, jusqu'au bout, et je le souhaite ardemment, moi j'attire votre attention sur ces difficultés qu'on a pu rencontrer dans la conduite de ce dossier, et de le considérer, je dirais, dans les raisonnements que vous pourrez tenir. Voilà tout simplement ce que je voulais dire, parce que c'est pas un dossier facile. Et puis un autre point également qu'il ne faut peut-être pas négliger, et je le dis, je dirais, très librement devant nos amis des phages, c'est que ce projet, ils en ont besoin. Et au niveau d'une entreprise, on a une planification. Et quand on a besoin de quelque chose, ben, ça se réalise. Vous avez dit, je crois que c'est 2013. Il faut qu'en 2013, ce projet soit réalisé. Si à un moment, je dirais, par nos tergiversations, en recherchant, je dirais, la constante amélioration, ben, on arrive à prendre tellement de retard qu'en fait, ce projet risque à un moment de ne plus intéresser EFAGE. Et je pense que là, au plan économique et au plan financier, on aura certainement également des difficultés, je dirais, pour pouvoir réaliser cette opération qui, pour moi, est une amélioration au niveau de l'agent. On pourra toujours dire qu'on peut faire mieux, c'est certain, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est fait, je le dis sans aucune prétention, me paraît quand même largement satisfaisant.
Merci. Merci, monsieur Baudry. J'ai oublié de répondre à madame De Becker sur la partie commerce-service. Pour l'instant, on a privilégié les commerces en rez-de-chaussée des immeubles, comme vous venez de le voir. Mais rien n'interdit d'imaginer que certains commerces se transforment en locaux destinés à des services. En particulier, dans l'allée Baltard, en rez-de-chaussée du petit immeuble qui est dans le prolongement de la clinique de l'hôpital privé Armand-Briard, il est prévu, par exemple, il y a des contacts qui sont pris pour un laboratoire d'analyse, pour des bureaux destinés à avoir un cabinet médical de spécialistes qui serait dans le prolongement de l'hôpital, mais qui ne serait pas logé dans l'hôpital. Mais concernant les locaux qui sont avenue de Joinville, mais du côté justement de l'allée Baltard, certains disent, d'ailleurs dans les dans les conseils de quartier que ça n'est pas évident que de développer des commerces de ce côté-là. Du côté de la gare, oui, mais de ce côté-là, pas forcément. Il sera toujours possible, à ce moment-là, d'injecter les services dont vous parliez à cet endroit-là. Donc on n'est pas, si vous voulez, ça n'est pas bloqué complètement, et tout cela peut évoluer. D'autres questions ? Madame Matruchot.
Il ne s'agit pas d'une question, mais simplement pour avoir participé à tous les ateliers, j'attire l'attention sur la demande importante des riverains et des Nogentais sur la présence de commerces, de nouveaux commerces et la diversification de ces commerces. Alors c'est extrêmement prématuré pour l'instant de parler d'enseignes ou de d'autres choses, mais nous avons déjà vu ce qu'il pouvait manquer. Je vois toutes les personnes des ateliers qui sont là et donc nous en avons beaucoup parlé. Nous serons vigilants quant à la diversification de ces commerces, leur implantation. Nous savons qu'il y aura certainement une surface un peu plus importante, enfin une grande surface, et environ 5 ou 6 commerces. Le moment venu, nous verrons les enseignes ou les personnes que nous pourrons faire venir. C'est pas très, très facile d'en parler maintenant. Nous sommes un petit peu loin de cette commercialisation. Enfin, il me semble de toute façon que c'est un très beau projet, tout simplement parce que il ne faut pas quand même pas oublier, même si officiellement la taxe professionnelle n'existe pas, enfin je veux dire elle sera bien remplacée par d'autres contributions, et ce sera quand même extrêmement important pour la ville d'avoir ces ressources. Merci.
D'ailleurs, pour compléter l'intervention de Catherine Matruchot, nous avons contacté un certain nombre de commerçants qui sont aux abords de la gare ou de la place Leclerc, qui nous ont fait part, pour certains d'entre eux, de leur souhait de traverser la rue et de transférer leur commerce plutôt dans la sortie de la gare que d'être éloignés de cette gare. Donc nous donnerons priorité, en tous les cas, aux reconversions de commerce existants si les demandes sont précisées dans les mois qui viennent. Il est certain aussi que nous n'avons pas voulu implanter de très grandes surfaces pour ne pas déséquilibrer justement le commerce de proximité. Nous avons le marché de l'autre côté. Au contraire, il faut jouer sur le marché, les complémentarités avec les commerces existants, plutôt que de les concurrencer. Donc il y aura là, à dose homéopathique, un travail de dentelle à faire. Au plan commercial, c'est sûr. Et ça, l'association des commerces, du commerce Nogenté avec ses représentants au plan local, puisque il y a des membres du bureau qui sont sur la place Leclerc, nous aideront à trouver le bon équilibre et les bons ingrédients. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer que nous levions la séance pour permettre au public qui est ici présent, aux habitants qui nous ont fait le plaisir d'assister à notre séance de conseil municipal, de poser les questions qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent, en complément de celles que vous venez de poser. Je n'ai rien d'autre avant la fin de la séance, je n'ai rien à demander. Donc je vous propose de clore la séance du conseil et de passer la parole au public. Là, nous avons deux personnes qui